Laudetur Jesus Christus.
L'Europe tente de faire face à la deuxième vague de Covid-19. De nombreuses mesures de restriction pourraient être annoncées ces prochaines heures dans plusieurs pays alors que le virus ne cesse de circuler. En Espagne, le nombre de personnes infectées dépasserait les 3 millions. Nous retrouverons notre correspondant dans le pays. En Italie, les mesures de couvre-feu, elles, échauffent certains esprits comme à Naples où des émeutes ont eu lieu hier soir. Dans ce journal également, les suites de l'accord entre Israël et le Soudan annoncé par les États-Unis hier soir. Donald Trump qui en a profité pour aborder un autre dossier, en l'occurrence le grand barrage sur le Nil que l'Éthiopie a commencé à remplir. Pour le président américain, l'Égypte pourrait détruire ce barrage afin d'assurer ses ressources. Des propos, nous le verrons, qui ont fait réagir fortement Addis Abeba. Et puis nous reviendrons sur le discours à la nation du président congolais Félix Tshisekedi hier soir. Il a lancé des consultations en vue de former une nouvelle coalition au pouvoir.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Un peu partout, l'Europe tente de réagir face à la deuxième vague de l'épidémie de Covid. Les mesures de restriction contre la pandémie se multiplient. Le Pays de Galles, par exemple, a reconfiné pour une durée de 2 semaines. Depuis hier, plus de 3 millions de Gallois sont invités à rester à la maison. Les mauvais chiffres également en Allemagne, qui a dépassé ce matin les 10 000 décès dus au Covid. Même si les mesures de restriction sont moins lourdes que dans d'autres pays, les Allemands, eux, sont invités à la plus grande prudence. En Espagne, l'un des pays les plus touchés d'Europe, le nombre de personnes infectées dépasserait les 3 millions et le pays pourrait encore durcir les restrictions. À Barcelone, Luis Marsans.
L'Espagne est le premier pays d'Europe à avoir franchi la barre du million de cas positifs car la deuxième vague est arrivée ici dès le mois de juillet. Ce chiffre très impressionnant serait pourtant en deçà de la réalité. Selon Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, le nombre réel de personnes infectées par le virus en Espagne depuis le début de la pandémie dépasse les 3 millions. De nouvelles restrictions seront annoncées dans les prochaines heures. Plusieurs régions ont demandé la déclaration de l'état d'urgence, un dispositif juridique qui permet d'instaurer certaines mesures. Un couvre-feu est envisagé dans tout le pays. En Catalogne, les bars et les restaurants sont déjà fermés, tandis qu'à Madrid, il est interdit d'entrer et de sortir de la ville sans raison valable. La Navarre et la Rioja ont également instauré des restrictions de mobilité. Les hôpitaux ne sont pas encore débordés, mais ils sont soumis à une très forte pression. Le gouvernement espagnol répète que cette seconde vague concerne désormais toute l'Europe et pour la première fois depuis le début de l'été, l'Espagne n'est plus le pays le plus touché par l'épidémie. Le taux de contamination est plus élevé en France, en Belgique ou aux Pays-Bas. Barcelone, Luis Marsans pour Radio Vatican.
Et sachez que le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a été reçu ce matin au Palais Apostolique par le pape François. Le Saint-Père et son hôte qui ont notamment abordé l'urgence sanitaire mais aussi des dossiers comme le processus d'intégration européenne ou encore la question migratoire. Plus d'informations en détail à retrouver sur vaticannews.va. L'Italie regarde également avec inquiétude cette seconde vague de Covid. De nouvelles mesures de restriction pourraient être annoncées d'ici la fin du week-end par le président du Conseil, Giuseppe Conte. La situation qui se tend en particulier au sud de la péninsule où le virus circule de plus en plus. À Naples, en Campanie, des centaines de manifestants en colère ont d'ailleurs bravé le couvre-feu la nuit dernière et affronté la police. Blandine Hugonnet.
Pétards et fumigènes, des pierres et des bouteilles lancées contre les véhicules de police dans le centre de Naples hier soir pour la première nuit de couvre-feu. Des centaines de manifestants sont descendus dans la rue après 23 heures pour protester sous les fenêtres du Conseil régional. Ce qui a provoqué cette protestation, c'est la menace d'un nouveau confinement annoncé quelques heures plus tôt par Vincenzo De Luca, le président de la Campanie. « Tu nous enfermes, tu nous payes », lui a répondu le cortège de Napolitains en colère. Parmi eux, des commerçants, entrepreneurs, inquiets des conséquences d'un nouvel arrêt total dans ces provinces du Sud déjà fragiles économiquement. Mais la région est à un pas de la tragédie, justifie le gouverneur. Il faut dire que la Campanie est parmi les plus touchées par la seconde vague, avec 10% des nouveaux cas de Covid d'Italie. Mais l'augmentation exponentielle touche tout le pays et le président du Conseil s'apprête à donner un nouveau tour de vis. Les prochaines semaines s'annoncent compliquées, reconnaît Giuseppe Conte, mais si nous ne protégeons pas la santé, nous ne protégeons pas l'économie. Résultat, couvre-feu anticipé, fermeture des commerces dès 20h, déplacements limités entre les régions. Les médias italiens prédisent de nouvelles restrictions nationales dès demain soir. Des mesures aux aires de reconfinement, mais l'exécutif italien se garde bien d'utiliser le terme. À Rome, Blandine Gonnet pour Radio Vatican.
Et la Pologne, elle est passée en zone rouge ce samedi en raison de l'explosion des cas de contagion, plus de 13 000 ces dernières 24 heures. Les écoles primaires sont partiellement fermées, seules les maternelles accueillent encore les enfants. Les rassemblements sont par ailleurs limités à 5 personnes. La Pologne où le président Andrzej Duda a été testé positif. L'élection présidentielle au Kirghizistan fixée au 10 janvier prochain. L'annonce a été faite tout à l'heure par la Commission électorale centrale. Les élections du 4 octobre dernier, remportées par des formations proches de l'ancien président Jeybenkov, ont déclenché de nombreuses manifestations violentes dans le pays. Monsieur Jeybenkov a dû démissionner et a été remplacé par le populiste Sadir Japarov, libéré de prison par ses sympathisants lors de la crise, qui a profité du chaos pour se faire nommer Premier ministre, puis obtenir la présidence par intérim. C'est un accord que certains jugent historique, à commencer par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le Soudan et Israël vont normaliser leurs relations diplomatiques. Le Soudan devient ainsi le troisième pays arabe à se rapprocher de l'État hébreu depuis les Émirats Arabes Unis et Bahreïn. L'accord a été annoncé hier soir depuis la Maison Blanche par Donald Trump, le président américain qui en a profité pour aborder un autre dossier cher au Soudan et à l'Égypte, celui du grand barrage sur le Nil que l'Éthiopie a commencé à remplir sans accord préalable de ses voisins et malgré les menaces du Caire. Donald Trump qui est allé plus loin, assurant que l'Égypte pourrait faire sauter le barrage pour garder le contrôle sur le Nil. À Addis Abeba, la sortie du président américain a sans surprise fait réagir le Premier ministre. Les explications de notre correspondant sur place, Noé Auchet-Baudin.
L'Égypte doit faire sauter ce barrage, je le dis haut et fort. Oui, ils doivent le détruire. La formule est signée Donald Trump, elle est plus proche de la déclaration de guerre que d'une simple suggestion à un allié stratégique, en l'occurrence le Caire, qui craint pour la survie de son économie si le débit du Nil venait à diminuer. L'option militaire est donc mise sur la table par Trump, alors même que le maréchal Al-Sissi l'avait écarté en septembre lorsque l'Éthiopie a procédé à la première phase de remplissage du barrage. Les négociations sont au point mort et les tensions sont vives. L'armée éthiopienne a récemment fermé l'espace aérien de la province du Benishangul-Gumuz, une mesure préventive pour parer à toute attaque extérieure sur le barrage de la Renaissance. Face aux propos de Trump, c'est d'abord l'ancien leader éthiopien Haïlé Mariam Desalegn qui a réagi, regrettant la méconnaissance et l'arrogance du leader américain. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est lui fendu d'un communiqué assurant que l'Éthiopie travaille à un règlement pacifique du dossier, mais que les menaces contre sa souveraineté sont une violation du droit international. Le pays, pourtant actuellement en proie à une crise interne, se rallie comme un seul homme derrière le barrage. Depuis hier, c'est le hashtag It's My Dam qui inonde les réseaux sociaux éthiopiens, signifiant littéralement « c'est mon barrage ». Addis Abeba, Noé Auchet-Baudin, Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé l'ouverture de consultations entre les différents partis de la coalition au pouvoir. Dans un discours à la Nation prononcé hier, le président congolais n'a pas caché les divisions qu'il oppose avec le camp de son prédécesseur, Joseph Kabila, et fait part de sa volonté de créer une nouvelle coalition. À Kinshasa, les précisions de notre correspondant Pascal Moulégois.
Sa plateforme réclamait la fin de la coalition avec les camps de Joseph Kabila, mais Félix Tshisekedi n'y va pas si vite contre ses adversaires farouches d'hier, devenus ses alliés. Pour lui, les divergences s'accumulent depuis près de 2 ans et plombent le développement du pays. Parmi ces divergences, il y a les réformes électorales, notamment la composition de la commission électorale, mais aussi des mises en place dans la diplomatie. Il a déclaré que la mise en place d'un état de droit qu'il prône, je cite, « énerve certains nostalgiques ». Solution, dès la semaine prochaine, une série de consultations des acteurs sociopolitiques va démarrer pour, dit-il, une union sacrée.
Ces consultations visent la refondation de l'action gouvernementale autour des principes de participation à la gestion du pays. À l'issue de celle-ci, je reviendrai vers vous dans une nouvelle adresse pour vous faire part de mes décisions qui n'excluront aucun cas de figure.
Aucune option n'est donc exclue, mais dans les camps de Joseph Kabila, aucune réaction officielle pour le moment. Dans les états-majors du FCC, nombreux sont ceux qui s'attendaient à une déclaration plus ferme, annonçant notamment la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui devrait mettre fin à la coalition. Pascal Moulégois, Kinshasa, Radio Vatican.
Une nomination importante, Monseigneur Pierre-Baptiste Pizzaballa, nommé patriarche latin de Jérusalem, ancien custode de Terre Sainte. Le religieux capucin italien a été nommé ce samedi par le pape François à la tête du patriarcat dont il était administrateur apostolique, et ce depuis 2016, et le départ de Monseigneur Foitoile pour limite d'âge. Et puis au Vatican, le pape François a reçu ce matin en audience environ 200 enseignants et étudiants de la faculté théologique pontificale Marianum à l'occasion des 75 ans de sa formation. Dans son discours, le Saint-Père est revenu notamment sur l'importance de la mariologie aujourd'hui dans l'Église. Aller à l'école de Marie, c'est aller à l'école de la foi et de la vie, a dit le pape. Toutes ces informations sont bien entendu à retrouver sur vaticannews.va. Et ainsi s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Je vous souhaite une excellente après-midi et un très bon week-end.